Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir nous allons poursuivre la discussion que nous avons commencée la semaine passée. Nous parlons communication et plus particulièrement nous recevons une chargée de communication, une bonne expérience dans le domaine et avec elle nous allons parler communication au profit de la promotion des marques et des idées brillantes. Elle a un parcours qui déjà est brillant et j'espère qu'il va aussi vous inspirer. J'ai beaucoup parlé d'elle. Alors elle, c'est Robin Manoka. Bienvenue dans YouJob, la passerelle entre les employeurs et les employés. Ici, nous parlons idées, initiatives professionnelles et plus aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons nous centrer, en tout cas dans votre métier de chargé de communication. Et vous êtes là depuis quelques années. Vous avez travaillé pour plusieurs sociétés, entreprises. Vous êtes chargé de communication, donc vous avez déjà travaillé pour plusieurs organisations et marques. En quoi consiste exactement votre travail?
Alors, mon job est simple et aussi il y a une part de simplicité, mais pas que. Donc, j'établis des stratégies de communication pour les entreprises. Je crée du contenu et en général, je gère des projets de communication. Donc, voilà.
Donc, pour faire simple. Des stratégies. Créer de contenu et mettre en place ces stratégies aussi.
C'est ça, la mise en place des stratégies.
En même temps ?
Oui, voilà. En fait, je peux mettre en place la stratégie jusqu'à l'exécution.
Alors ça se passe comment un peu ces métiers ? Il faut être seul, il faut être accompagné, il faut partir sur quelle base ? C'est aussi un travail des titans.
Bon, en général, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et pas que, mais des entreprises où on avait besoin des autres parce qu'on ne peut pas forcément savoir tout faire. Je ne suis pas forcément graphiste, par exemple. Donc, okay. Si j'ai besoin de quelqu'un pour faire une affiche, j'ai besoin de quelqu'un. Enfin, je vais solliciter quelqu'un pour une vidéo, etc. Mais le chargé de communication, c'est quand même quelqu'un qui doit être quand même assez polyvalent. Mmh. D'être assez polyvalent, mais il doit aussi s'appuyer sur les autres. Donc, on travaille quand même beaucoup avec les autres.
C'est un mot très fort. Déjà, quand on parle stratégie, c'est un terme qui peut paraître stratégique en même temps. Mmh. Cette stratégie, elle est établie comment et elle sert à quoi et... C'est aussi magique, on va dire, et mystère pour certains.
Bon, on met en place des stratégies déjà pour le business.
Okay.
Parce que chaque entreprise, quand même, en général, a pour vocation, à part si c'est une association, mais a pour vocation de créer du business.
Okay.
On peut avoir une idée, mais tant que l'idée n'est pas... On ne communique pas sur l'idée, elle restera une idée. Donc, je peux avoir la meilleure idée du monde pour lancer n'importe quelle chose, mais tant que je ne
sais pas communiquer sur l'idée.
C'est ça. Voilà, si je ne sais pas communiquer sur l'idée, au final, l'idée va y rester idée.
Ok, donc venez donc transformer les idées en des entreprises et des marques. Alors, la communication est aussi vaste que ça. Quels sont vos principaux axes d'intervention ?
Alors, moi, je fais de la communication principalement digitale.
Ok.
Donc, je fais de la communication digitale. Donc, je vais gérer un peu tous les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, la création de contenu. Vidéos, photos et l'organisation d'événements. Donc je fais aussi de la communication événementielle.
Alors vous avez donné la mission de contribuer aussi à l'amélioration du continent africain.
Mm-hmm.
Déjà, on le dit tous depuis des années, l'image de l'Afrique à l'étranger est un peu, on va dire, ternie ou mal vue. Est-ce que tout se passe bien ? C'est aussi un défi.
C'est aussi un grand défi parce que, comme je le dis souvent, en France, moi j'ai vécu en France. Mm. Donc en France, les Africains... ont une image de l'Afrique qui est assez biaisée, à cause déjà de la société, à cause des médias, mais aussi à cause de nos propres parents qui n'ont pas forcément donné la meilleure image de l'Afrique. Donc moi, mon but, c'est d'améliorer cette image afin que la diaspora puisse être attirée par ces pays-là d'Afrique.
D'où est née cette passion ou cette volonté ?
Bon, je pense que c'est à force de fréquenter aussi les Africains en Europe. Parce que moi aussi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui n'aimait pas forcément l'Afrique.
Une image négative de l'Afrique.
C'est ça. Pour moi, l'Afrique, c'était, il faut le dire, hein, c'était que la pauvreté, c'était la saleté. Et on nous a un peu donné cette image de l'Afrique. Mais j'ai découvert des personnes qui m'ont parlé positivement de l'Afrique. Et j'ai été attirée par ça.
Ah donc, il fallait lier ses compétences de communicatrice à l'Afrique, à la bonne image de l'Afrique. Et c'est depuis quand ? Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'à là ?
Alors, par rapport à ça, moi, je suis très active sur LinkedIn. Pourquoi j'ai choisi LinkedIn ? Parce que c'est une plateforme professionnelle et je peux accéder quand même à pas mal de gens et à cibler quand même pas mal de personnes à la fois. Donc, pour parler de ce sujet qui est l'Afrique et aussi de ma passion pour la communication. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? C'est déjà des événements aussi. Donc, comme vous le direz, on en parlera un peu plus après. Donc, RBA en sigle, Répatriation et Business en Afrique. Donc, le but est là de parler un peu d'Afrique, de répatriation, donc du retour en Afrique, mais aussi de business.
Communication digitale, vendre l'image positive de l'Afrique et LinkedIn. On parle d'ailleurs des LinkedIn, ces réseaux sociaux qui vous voient exploser, en tout cas aujourd'hui. personnellement, je suis un lecteur, j'aime lire vos publications. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai vu il y a 2 mois que c'était à peine 4 ou 5 mois que vous avez fait votre apparition sur LinkedIn et un déclic avec beaucoup de on va dire des abonnés déjà, pas moins de 4000, et alors que ça galère pour beaucoup d'autres.
Alors, alors comment j'ai fait ? Je pense que j'ai été moi, j'ai été authentique et j'ai partagé de la manière la plus simple mon amour pour l'Afrique. Et je pense que c'est ça qui a attiré les gens. Okay. J'ai été une personne qui est de la diaspora, qui n'a peut-être jamais vu l'Afrique plus de 5 fois, mais qui partage sa passion pour l'Afrique et son amour pour l'Afrique. Donc je pense que c'est ça qui a intéressé pas mal de gens. Et au-delà de ça, j'ai quand même assez échangé avec pas mal de gens. Et LinkedIn, c'est quand même une plateforme de réciprocité. Donc si on sait soutenir les autres, les gens aussi savent nous soutenir. Donc c'est un peu ce que j'ai fait sur LinkedIn et c'est ce qui a marché pour moi.
Et ça... En tout cas, parce que c'est une question très importante et un sujet difficile à comprendre. Vous n'avez auparavant jamais vécu en Afrique. Vous êtes arrivé en Afrique et vous êtes arrivé dans ces pays africains. Vous avez commencé à communiquer sur l'Afrique. Il fallait quand même avoir un certain temps pour s'acclimater, pour voir comment ça fonctionne. Comment c'est parti aussi en un peu de temps ?
Bon, je ne pense pas tout connaître et je ne pense pas tout savoir et j'aurais pas le courage de dire que je sais tout sur l'Afrique, mais le peu de fois que j'ai visité l'Afrique, j'ai voulu partager ces expériences-là, ce qui m'a parfois choquée quand je suis arrivée, la mauvaise image que j'ai eue et les belles choses que j'ai découvertes aussi ici, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les pays du Maghreb. Donc j'ai simplement fait partager mon expérience. J'ai pas dit que j'habitais déjà en Afrique, mais j'ai partagé les voyages que j'ai fait et ce que j'en ai tiré.
Alors, revenons sur votre métier. Vous avez dit que vous êtes plus, en tout cas, dans la communication digitale, donc les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous avez besoin d'un communicateur classique pour avancer ? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà dans les entreprises, on va les digitales, il y avait déjà des chargés de communication. Aujourd'hui, on les appelle un peu plus des chargés de communication traditionnels. Est-ce que vous avez besoin d'eux encore aujourd'hui ?
Est-ce qu'on a besoin d'eux dans les entreprises ?
Oui, dans les entreprises. C'est-à-dire que pour un projet où vous êtes appelé à travailler en tant que communicatrice, notamment sur les digitales, est-ce que vous avez besoin encore de ces chargés de communication ?
On a toujours besoin. Je pense que ce n'est pas des métiers qui vont disparaître, mais c'est des métiers avec lesquels on apprend aussi à travailler et on apprend aussi à maîtriser... on apprend en fait à se développer, à comprendre les nouveaux défis du digital, mais je pense qu'on en aura toujours besoin.
Est-ce qu'ils sont encore indispensables ? Vous pouvez gérer seul aussi, sans eux ?
Bon, je pense pas que, à part si on est consultant, par exemple là c'est un métier après vraiment à part, mais je pense pas que le chargé de communication en entreprise peut travailler seul. Parce qu'il aura toujours besoin d'autres personnes et il n'aura pas forcément toutes les compétences. Même si le chargé de communication doit être polyvalent, il ne peut pas en fait compter que sur lui-même. Il aura toujours besoin d'autres personnes.
Ok. Alors, dans le sens où vous coordonnez la communication d'un projet, alors vous avez besoin d'eux ?
Bon, moi, je pense que j'ai toujours besoin d'eux.
Ok. Donc c'était vraiment. J'ai essayé de tourner autour de cette question pour voir clair. Je pense qu'elle est bien répondue, mesdames et messieurs. Vous nous suivez en direct des LANO 94.7. Nous émettons à Kinshasa. C'est YouJob. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Suivez-nous chaque mardi à 19h sur cette même fréquence. Alors, je suis Clostéphie Mouattas. Je reçois chaque mardi entrepreneurs, professionnels, experts et toute autre personne qui peut venir répondre à mes questions sur le milieu professionnel. J'espère que vous avez vos stylos à côté pour noter. J'espère en tout cas parce qu'il y aura de bonnes choses qui seront partagées en si peu de temps que nous allons passer ici avec Robin Manoka. Je rappelle, elle est chargée de communication. Elle travaille, elle fonctionne entre la diaspora, entre l'Europe et l'Afrique. Et elle se charge donc de travailler sur de la communication de projets, des organisations et aussi des événements, notamment avec son événement. Elle a essayé d'anticiper il y a quelques minutes. Alors, son événement, son concept, c'est répatriement et business, si je ne dis pas des bêtises en tout cas.
Répatriation et business en Afrique.
Ok, répatriation et business en Afrique. C'est quoi l'idée?
Alors, bon, déjà pour définir les termes, tout le monde ne connaît pas la répatriation. Souvent, on parle d'expatriation, le fait de quitter parfois l'Afrique pour aller s'installer en Europe. Okay. La répatriation, c'est le contraire, c'est-à-dire de quitter l'Europe, l'Amérique, de quitter en tout cas son pays d'adoption, disons, pour revenir au pays d'origine ou souvent revenir en Afrique plus généralement. Donc, quel est le concept? Il est simple, je pense. Donc, il a deux volets. Donc, le volet en Europe et le volet en Afrique. Donc, je l'ai fait déjà trois fois, trois occasions, en France et puis en Côte d'Ivoire.
Ok.
Donc, en France, le but, c'est de connecter des personnes qui ont le même projet, de retourner en Afrique. Donc, pour cela, je vais faire intervenir, par exemple, des personnes qui ont déjà vécu en Afrique ou qui ont déjà investi en Afrique. Donc, ce n'est pas forcément tout le monde qui doit retourner en Afrique, mais c'est parfois des personnes qui veulent seulement y faire du business. Donc, le but, c'est qu'ils puissent partager leur expérience et donner des conseils à ceux qui ont ce projet-là, soit d'y investir, soit d'y retourner, vivre.
Alors, à première vue, ça a marché. Est-ce qu'ils sont intéressés? Et puis, des profils de ces intervenants, c'est donc des entrepreneurs qui ont réussi ici en Afrique et qui viennent partager. Mais est-ce que la connexion passe?
Oui, moi, en fait, c'est...
Et des résultats?
Ce projet est vraiment venu parce que beaucoup de personnes, via LinkedIn justement, me sollicitaient pour me dire « Ah, tu connais pas des personnes qui habitent en Côte d'Ivoire et qui ont quitté l'Europe? Est-ce que tu peux me connecter avec eux? Est-ce que tu peux m'aider dans ce projet-là ?» Donc je me suis dit « Pourquoi pas, en fait, rassembler toutes ces personnes-là qui ont le même projet, qui ont le même projet de retourner en Afrique ou simplement d'y investir et ensuite de les connecter à des personnes qui ont déjà fait cette démarche-là. » Donc les profils, ce ne sont pas forcément que des entrepreneurs, mais ça peut être aussi des salariés qui ont aussi réussi leur répatriation et qui ont envie simplement de partager leur expérience.
Alors moi, j'observe, quand on va en Belgique, en France et même au Canada, on remarque qu'il y a, je ne sais pas si c'est une tendance, il y a maintenant ces forts mouvements, il y a beaucoup d'événements, on va dire, retour vers l'Afrique, vers l'Afrique. Est-ce vraiment c'est un besoin en ce moment ou c'est une tendance, c'est un fait de mode, on va dire?
Bon, je ne pense pas que ce soit un fait de mode. Mais je pense vraiment que ça naît d'un besoin, d'un véritable besoin. Ils ont observé que la plupart des gens voulaient retourner en Afrique. Nous-mêmes, on est ici parce qu'on voulait aussi retourner en Afrique. On avait ce projet il y a quelques mois qu'on a concrétisé. Et il y a des personnes qui nous ont aidés, des plateformes qui nous ont aidés à revenir en Afrique par des conseils, par des accompagnements. Je ne pense pas que ce soit une tendance, mais je pense vraiment que ce soit un besoin. Mais que tout le monde n'est pas forcément concerné par ce besoin.
Ok, je comprends mieux, moi, j'apprends en tout cas. On va revenir sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que vous êtes plus active sur LinkedIn. C'est là que je disais tantôt que vous avez explosé. Vous pensez que c'est le meilleur réseau social pour communiquer aujourd'hui?
Alors, chaque réseau a un peu ses objectifs et ses cibles différentes. Pour moi, s'il s'agit de parler au niveau professionnel, oui, LinkedIn est une très bonne plateforme pour cela.
Ok, pour communiquer pour des raisons professionnelles.
Mais pas que pour partager un projet ou simplement aussi pour développer son réseau. Parce que pour les gens, LinkedIn, c'est juste une plateforme pour l'emploi, alors que c'est une plateforme où on développe aussi notre réseau. On peut créer aussi de très belles connexions et développer des idées de business, trouver des partenaires, et même faire du business.
En tant que chargé de communication, est-ce que LinkedIn suffit ou il faut nécessairement chercher à acquérir des connaissances sur tous les réseaux sociaux qui existent?
Bon, je pense pas que être chargé de communication, ça doit être un métier qui doit un peu englober et on doit maîtriser tous les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on doit comprendre leur impact et leur importance. Surtout avec les nouveaux réseaux qui apparaissent, etc. Donc je pense qu'on doit quand même comprendre la portée de chaque réseau, mais pas forcément les maîtriser. Parce que chaque entreprise utilise ses propres réseaux sociaux. Par exemple, dans mes expériences professionnelles, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas forcément travaillé à chaque fois sur les mêmes réseaux sociaux. Donc je pense qu'on doit quand même comprendre les grands défis, comprendre les cibles, etc. Mais pas forcément totalement les maîtriser.
Alors, quand on communique sur les réseaux sociaux, on s'attend à des résultats. Et généralement, c'est des likes, c'est des commentaires, c'est un peu comme des applaudissements quand on parle devant les gens. Alors, ça fait du bien, mais malheureusement, ce n'est pas toujours qu'on a des résultats positifs. Comment vous réagissez quand ça vous arrive de ne pas avoir assez de réactions, même pour une publication qu'on considérait attirer encore plus de monde, plus de réactions, et puis, voire même de prospects?
Bon, ça m'est déjà arrivé. Et ça fait mal, faut le dire.
Ça, c'est vrai.
Oui, ça fait mal parce qu'on se dit, j'ai parfois écrit pendant 2 heures, parfois pendant 1 semaine. Il y a parfois des posts que... Par exemple, moi, j'ai l'habitude d'écrire mes posts sur mon téléphone. Donc, j'ai des posts qui ne sont pas encore sortis, mais je les ai écrits depuis juillet. Mais parfois, on doit les retravailler, on veut les réajuster pour qu'ils soient en fait vraiment excellents. Et parfois, on pense que le post est excellent, mais le public nous dit que c'est pas excellent. Le public nous montre que c'est pas excellent. Donc, on apprend à se réajuster. On apprend à comprendre que... Parfois, c'est, par exemple, l'heure de publication qui n'était pas la bonne.
Okay.
Parfois, on comprend que c'est le langage.
Donc, il y a même 2 heures qui sont correctes pour publier.
Oui.
À n'importe quel moment qu'on va communiquer.
Non. Par exemple, sur Instagram, ça peut marcher. On peut publier parfois à n'importe quelle heure, à 21h, et il n'y a pas de problème. Sur LinkedIn, il faut aussi être en accord avec le milieu professionnel. Donc, okay. On se dit que, par exemple, le matin, les gens partent au boulot. Donc... ils sont peut-être plus à même de regarder leur téléphone et de regarder LinkedIn, ou pendant la pause déjeuner, ou en fin de journée.
Alors, quelle est la meilleure manière de réagir quand on n'a pas de résultats auxquels on s'attendait?
Je pense... ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'envoyer mon post à d'autres amis. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi?
Ok.
Donc, d'avoir cette humilité de se dire
faut s'ouvrir aux critiques.
Voilà, faut s'ouvrir aux critiques et se dire, qu'est-ce que tu penses de mon post là? Est-ce que... il était trop complexe? Est-ce que j'ai utilisé des mots un peu trop compliqués? Ou est-ce que c'était accessible en fait à tout le monde? Moi, je me dis toujours, est-ce que mon poste doit être accessible même au boulanger qui va lire mon poste?
Okay.
Même si c'est un boulanger qui est sur LinkedIn, il doit pouvoir comprendre simplement mon poste. Une personne qui est chef d'entreprise doit aussi pouvoir comprendre simplement mon poste. Donc, je ne vais pas utiliser d'acronyme, je ne vais pas utiliser de mots compliqués afin que tout le monde puisse comprendre.
Alors ça, c'est votre stratégie?
Oui.
C'est pour poser une question. Alors, c'est quelque chose qui est revenu 2 fois déjà. Mm-hmm. Je pense qu'un peu plus, mais moi, j'ai retenu que c'était revenu à 2 reprises. La stratégie des communications. C'est quoi une stratégie des communications? C'est la manière de communiquer sur quelque chose? C'est l'idéologie? C'est la stratégie, oui. Mais c'est quoi, en fait, en des termes plus simples? Parce que vous avez dit, il faut que le boulanger, puisse comprendre.
Oui, en fait, c'est toutes les techniques qu'on va mettre en œuvre, toutes les choses qu'on va mettre en œuvre pour atteindre un objectif.
Okay.
Donc une stratégie, ça va être un peu la lignée, ça veut dire le plan. Voilà, le plan qu'on va avoir pour atteindre un objectif à telle période et voilà.
Là, je crois que les boulangers ont compris et qu'ils vont rechercher des stratégies de communication pour leur boulangerie.
Même les boulangers en ont besoin.
Oui, oui. Tout le monde en a besoin finalement. Alors, sur l'un de vos posts, il y a 2 mois, je me rappelle, vous indiquez que tous les Africains ne doivent pas retourner s'installer en Afrique, mais tous les Africains doivent avoir le souci de leur continent. Au départ, quand j'ai lu ça, j'ai compris. Mais après 2 secondes, 3 secondes, j'ai dit... comme si je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de mieux comprendre
okay.
Le message derrière ces posts. Uh-huh.
Alors, le message est simple. Ça veut dire que quand je l'ai écrit ce post il y a 2 mois, je disais que je ne peux pas demander à tout le monde de retourner en Afrique parce que ce n'est pas la destinée de tout le monde. Tout le monde ne doit pas retourner en Afrique. C'est-à-dire que tous les Africains, ils ont aussi leur impact à avoir dans d'autres continents. Comment je veux impacter... tout le monde ne peut pas impacter en tout cas l'Afrique en étant en Afrique. Il y a des gens qui vont impacter l'Afrique en étant en Europe. Il y a d'autres personnes qui vont impacter l'Afrique en étant en Amérique, etc., etc. Donc, moi, je disais, j'encourage les gens à aimer l'Afrique. Comme je vous l'ai dit au début, comme je te l'ai dit au début, moi, je n'aimais pas forcément l'Afrique à cause de ce que j'entendais. Mais mon but, c'est aussi que les gens puissent aimer l'Afrique, avoir cet amour pour l'Afrique-là. Mais pas forcément y retourner, car ce n'est pas la volonté de tout le monde et tout le monde n'arrivera pas aussi à s'adapter à l'Afrique. Mais tout le monde doit avoir cet amour-là pour l'Afrique et tout le monde doit...
Agir d'une manière ou d'une autre pour l'Afrique.
C'est ça. Et garder ces valeurs-là.
Garder
les valeurs et ne pas renier ces valeurs parce qu'on est en Europe. C'est surtout ça.
Alors, est-ce que ce qui est observé, quand même, il y a des gens qui oublient ces valeurs africaines. Pourtant, ils sont originaires de l'Afrique, mais après, peut-être qu'ils ne sont plus africains.
Beaucoup, 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 beaucoup. On en connaît. Beaucoup de personnes, dès qu'ils arrivent en Europe, oublient qu'ils sont africains. Pour eux, ils sont européens et ils ont laissé l'Afrique et leur famille en Afrique. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec les Africains.
Encore sur l'un de vos postes, vous dites qu'il y a ces contrastes parce que quand on arrive ici au Congo et qu'on n'est pas né ici au Congo, ou soit on n'a pas vécu ici au Congo, on n'est pas trop vu comme Congolais. Et là également, il y a aussi ces contrastes. Comment expliquer ces phénomènes par rapport à l'expérience personnelle? Est-ce qu'on a vraiment besoin au moins de ces mariages pour mieux vendre les cultures de l'un ou de l'autre?
Bon, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que ça a été vraiment un fait que moi j'ai vécu personnellement. Quand je suis arrivée en Afrique, on m'a dit « tu n'es pas africaine parce que tu n'es pas née en Afrique ». Pourtant, je me sentais africaine, moi, dans mon cœur, mais je n'étais pas considérée comme africaine par le peuple ici. Surtout par le peuple congolais. Je n'étais pas considérée comme congolaise. Mais en Europe, je n'étais pas aussi considérée comme française car ma couleur de peau me rappelait que je ne venais pas d'ici. Donc, parfois, on se demande est-ce que, je ne sais pas, je suis née... Où je viens d'où On se remet en question et on se dit, mais en fait, je suis africaine parce que j'aime aussi l'Afrique et parce que mon cœur m'appelle à l'Afrique. Donc,
Et donc, très fière de ces mariages.
Voilà, moi, je suis très fière de ce mariage. Pour moi, on ne doit pas forcément choisir, mais on doit aussi travailler avec ces deux bagages-là parce que j'ai vécu toute ma vie en France. Donc, j'ai gardé comme certaines valeurs françaises. Mais j'ai appris aussi à me marier aux valeurs congolaises. Et c'est ma nature, c'est ce que je suis. Donc j'apprends à faire ce mariage.
Ça rentre d'ailleurs dans la mission, mettre en valeur l'Afrique, la vraie Afrique et qui existe. Alors, vous avez parlé des répatriations. Quand on parle des répatriations, à côté, il y a donc immigration. Alors, il y a beaucoup de... Depuis des années, en 20 ans, 30 ans, il y a beaucoup d'Africains qui ont immigré de l'autre côté. Mais aujourd'hui, il y a une loi contre l'immigration, par exemple en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vient tuer quelque chose? Est-ce que ça vient réguler? Qu'est-ce que l'Afrique... comment l'Afrique doit-elle voir ces lois?
Bon.
Enfin, quand c'est bon, donc c'est mauvais.
Là, c'est comme si tu me piégeais.
Non, mais ici, on s'ouvre. Hein. On s'ouvre et puis on est très tolérant. Nos auditeurs sont très tolérants. Ouais. Ils comprennent mieux. Donc ici, on accepte bien ce qui vient du cœur et voilà.
Bon, c'est vrai que cette loi, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec elle. Et on ne partage pas... Et ça n'aide, en tout cas, ça n'aidera pas non plus la France. Et ça n'aidera pas aussi non plus... Par exemple, la loi qui a été établie en France, ça n'aidera pas la France, mais ça n'aiderait pas aussi les Africains. Donc, bon, je ne pense pas que je puisse donner un avis sur cela.
Ok. Voilà. Okay. Mais les deux parties, donc, au contraire, étaient plutôt bénéficiaires de ces mariages, de ces liens qui se créaient. Donc, on comprend bien. Et puis, voilà. Donc, mais l'événement répatriation a eu lieu en France, aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va se poursuivre? Comment ça se passe en termes de déroulement? Oui, il y a ces experts, on va dire, ces entrepreneurs qui ont vécu l'expérience africaine, qui viennent partager, mais qu'est-ce qu'il faut pour y participer? Et par exemple, la réalité, est-ce que les contextes, l'idée reste dans la même logique par rapport à celle organisée en France et en Afrique?
Alors justement, c'est le second volet que je voulais aborder. La répatriation business en Afrique, cet événement-là, en Afrique, il a... une autre perception, parce que là, c'est des personnes qui sont déjà répatriées. Donc, on contacte et on partage aussi sur les réseaux sociaux l'événement afin que des répatriés viennent et partagent aussi leur expérience et puissent aussi se connecter entre eux, qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs défis. Il y a des personnes qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 6 mois, d'autres personnes il y a 10 ans. Donc les personnes qui sont arrivées il y a 10 ans peuvent partager leur expérience aux jeunes qui ont parfois des doutes, qui veulent aussi retourner. Donc voilà, donc par rapport à la question, oui, j'ai pour projet de continuer cet événement dans d'autres pays d'Afrique que je visiterai cette année. Beaucoup de pays qui sont assez ouverts, par exemple comme le Bénin ou le Sénégal. Donc voilà.
Alors pourquoi vous avez commencé en Côte d'Ivoire ?
Alors pourquoi j'ai commencé en Côte d'Ivoire ? La première fois que je suis allée en Côte d'Ivoire, c'était à l'occasion de mon anniversaire, c'était en 2022. Et j'ai tellement aimé la Côte d'Ivoire et j'ai aimé la chaleur humaine qu'avaient les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très ouverts, les Ivoiriens sont... On se sent tout de suite à la maison. Donc je me suis toujours sentie à l'aise et je me suis dit, à partir de là, chaque année, je dois retourner en Côte d'Ivoire. Et donc quand j'avais prévu de revenir, je me suis dit, logiquement, je suis obligée de rencontrer des répatriés. Et on en a rencontré une cinquantaine cette année.
Une cinquantaine, c'est pas quand même facile hein, pour une première.
Oui, c'est donc pas facile.
C'est bien, ça a bien commencé. On espère que l'aventure va grandir dans d'autres pays également. Les Bénins a été cité, mais pas les Congo.
Alors, le Congo, il y a déjà des mouvements de répatriation et d'expatriation qui sont déjà organisés. Donc, pourquoi pas ? Mais le peuple congolais n'est pas le peuple ivoirien. Mmh. Donc, les Congolais ne sont pas les Ivoiriens. La mentalité n'est pas la même. Okay. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et il y a une certaine ouverture d'esprit qu'il y a chez les Ivoiriens, si je peux le dire, qu'il n'y a pas forcément chez les Congolais. Et on apprend à travailler avec eux. Et donc, je suis encore en pleine réflexion.
Okay. La promotion des idées brillantes, c'est promouvoir l'Afrique. On a sa vraie image, mais est-ce que l'Afrique elle-même vous aide ? Ici, j'ai remarqué qu'il y avait un certain... c'était un peu compliqué, hein ? Par rapport aux réalités rencontrées, la Côte d'Ivoire et la RDC, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés quelque part.
Bon, les difficultés, c'est que le peuple, par exemple, les Ivoiriens, quand on échange avec eux, ils n'ont pas de problème à aider, à soutenir les autres et à donner de la force aux autres. Ce qui n'est pas forcément le cas ici, au Congo. Mais le Congo nous aide et l'Afrique en général nous aide. Elle nous apprend déjà sur nous-mêmes, elle nous apprend à nous réajuster, elle nous apprend aussi à forger notre caractère. Ce que j'aime ici au Congo, c'est que ça m'apprend à forger mon caractère. Être au Congo, c'est pas forcément simple, mais plusieurs amis qui ont commencé au Congo, leur répatriation au Congo, puis sont allés dans d'autres pays, disent souvent que quand on commence au Congo, on peut faire tous les pays d'Afrique.
Okay. Quand on commence au Congo, c'est le plus dur.
Alors, voilà. C'est le plus dur, on a fait le plus dur. Et après, le reste est plus simple. Et c'est vrai que j'ai eu d'autres opportunités dans d'autres pays d'Afrique, mais mon cœur m'appelait au Congo. Okay. Mon cœur m'appelait au Congo, mais ma culture m'appelait au Congo et j'aime le Congo. Malgré ses failles, malgré ses imperfections, c'est ici que je me sens bien.
Alors, c'est quoi la plus grande valeur de l'Afrique que vous partagez au monde à travers vos actions ?
La générosité. La générosité, je dirais, c'est une des plus grandes valeurs que j'ai vues en Afrique et que je n'ai pas forcément vues en Europe. Cet aspect générosité, cet aspect famille qu'on peut avoir ici, qu'on n'a pas forcément en Europe.
On va revenir un peu dans le temps, ça ne va pas être un long voyage, je l'espère, parce que ça ne date pas de très longtemps. On va parler un peu de vos expériences auprès des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé en tant que chargé de communication. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus ? Comment ça s'est passé cette aventure ? Mais d'ailleurs, comment vous êtes retrouvé dans ces métiers ?
Comment je me suis retrouvé dans le métier de chargé de communication ?
Voilà.
Alors, pour la petite anecdote,
nous aimons bien les anecdotes.
J'avais 13 ans et mon papa m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que souvent à 13-14 ans en France, c'est l'âge où on te demande un peu qu'est-ce que tu veux faire après les études, donc vers quoi tu veux aller. Moi, j'ai toujours dit je vais aller en école de commerce. Je vais étudier le commerce. Je ne savais rien, mais j'ai dit je vais étudier le commerce. En arrivant au commerce, je me suis dit bon, tout ce qui est finance, tout ça, c'est pas mon truc. C'est un peu trop compliqué pour moi. J'aime ça, mais ça va être un peu trop compliqué. Et puis la communication, le marketing, c'est venu un peu comme un jeu et j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément simple pour tout le monde, mais je pense que quand aussi on est dans son domaine, c'est plus simple. Quand on se sent à l'aise dans un domaine, c'est plus simple. Et donc, c'est à l'âge de 13 ans que j'ai su que j'allais faire de longues études en école de commerce ou de communication. Et après, c'est au fur et à mesure où j'ai découvert que je me suis spécialisée et j'ai compris que c'est vraiment dans ça que que je me verrais évoluer.
Et les premières aventures professionnelles étaient positives ?
Alors, ça c'est une question piège. Alors, c'était pas forcément facile. Bon, j'ai travaillé dans plusieurs structures, que ce soit des agences événementielles, que ce soit des constructeurs automobiles ou que ce soit encore les télécommunications et les médias. Donc, chaque domaine est différent, chaque domaine a ses réalités. C'est pas forcément facile partout. Mais on apprend. Et j'ai aimé ces expériences parce que j'ai appris des domaines différents. Souvent, on veut rester dans le même domaine. Bon, si j'ai évolué dans l'automobile, j'évoluerai toujours dans l'automobile. Mais moi, j'ai aimé parce que j'ai découvert d'autres métiers. J'ai appris à me familiariser avec d'autres métiers, d'autres personnes et d'autres domaines. Et ça m'a forgé.
Puisqu'il faut élaborer la stratégie des communications, donc il faut maîtriser le fonctionnement de l'entreprise et même du secteur où évolue l'entreprise. Pas facile, on parle de l'automobile ici, on parle de tout ça. ce n'est pas du tout facile. Mais aujourd'hui, donc, en tant que communicatrice, vous vous sentez polyvalente, travaillez dans tous les secteurs, votre adaptation est maximale.
Bon, tous les secteurs, je ne sais pas. J'ai pas encore évolué partout. Mais je pense
Comment
que...
Comment s'est fait cette intégration ?
Bon, je pense qu'en fait, il faut beaucoup travailler. Il faut dire la vérité, il faut beaucoup travailler. Quand on arrive dans un nouveau domaine qu'on ne maîtrise pas, même dans une nouvelle entreprise, il faut beaucoup travailler en aparté. Et parfois, il faut consacrer un peu plus d'heures pour comprendre un peu l'écosystème dans lequel évolue l'entreprise, comprendre les défis de l'entreprise et beaucoup analyser, beaucoup poser de questions. Quand on arrive dans une entreprise, on peut pas arriver et puis penser tout connaître et rester dans notre coin. On a besoin des autres pour avancer. Il y a des personnes qui sont là parfois depuis 5 ans, 10 ans, qui ont les réponses à nos questions et qui peuvent nous aider.
Alors, oui, il y a encore à dire ?
Non.
Alors, c'était où la meilleure expérience ?
Je pense que c'est ma dernière expérience ici en France, c'est dans les télécommunications et les médias. J'ai travaillé chez SFR, donc voilà, c'est le deuxième opérateur en France en télécommunications. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'étais assez polyvalente et je pouvais quand même travailler sur beaucoup de sujets. Nous étions deux à gérer toute la communication pour 10 000 collaborateurs. Donc j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les autres. Et voilà, mais tu as posé une question, tu as dit est-ce que c'est toujours facile ? C'est pas toujours facile parce qu'on travaille avec l'humain. Et là où il y a l'humain, c'est pas toujours facile parce qu'on a des caractères différents, voilà. Des backgrounds différents, des expériences aussi différentes. Donc on apprend aussi à travailler avec les humains et on apprend aussi à se maîtriser aussi et voilà.
C'est important qu'on parle de la pire expérience. Nous aimons bien voir les côtés sombres. C'est beau de partager les côtés roses, c'est bien, mais on aime aussi apprendre des côtés sombres. Peut-être que ça peut sortir quelqu'un de l'ignorance, ça peut inspirer quelqu'un aussi.
Non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai été chargée de communication dans une entreprise. Je l'ai quittée au bout d'un an parce que, je vais taire le nom publiquement parce qu'elle est assez connue, mais parce que mon manager était toxique. Okay. Selon moi, était toxique et nuisait aussi à mon bien-être. Donc, on avait tendance parfois à demander des choses un peu, parfois tard le soir, très tôt le matin, ou à aussi rabaisser, à dénigrer. Du coup, c'était pas forcément la meilleure expérience, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup appris sur moi-même et qui a beaucoup forgé un peu mon caractère. Donc voilà.
On va plutôt parler de la touche particulière. Je sens que vous avez votre touche particulière. Ça, c'est Remarque, vous l'avez dit. Vous êtes venu notamment sur LinkedIn avec votre manière de faire. Alors, par rapport à votre passage, partout où vous êtes passé en tant que chargé de communication, quelle a été votre touche particulière ?
Bon, en général, les entreprises et mes managers disaient que c'était plutôt la créativité. La créativité, la proactivité et la persévérance. Bon, je suis quelqu'un qui ne lâche pas tant que j'ai pas atteint un objectif. Et j'aime aussi apporter des solutions aux problèmes. Et c'est ça la communication, c'est apporter des solutions aux problèmes. Donc une entreprise peut avoir des difficultés, peut avoir des défis. Et nous, la communication, on vient apporter les solutions.
Robin Manoka est notre invité ce soir, mesdames et messieurs, et nous avançons petit à petit vers la fin de notre discussion de ce soir. Nous parlons communication. au profit de la promotion des idées brillantes. Et Robin Manuka s'est donné cette mission de vendre la bonne image de l'Afrique à travers notamment son événement Répatriation et Business en Afrique. Ça marche, ça fonctionne. On espère que ça va encore grandir, exploser, pourquoi pas, en 2024 déjà. Alors, je vais revenir sur ça. C'était quoi la plus grande difficulté pour organiser ces trois premières activités?
Alors, en France, les difficultés n'étaient pas les mêmes en fonction du continent. J'ai organisé deux événements en Côte d'Ivoire et un en France. En France, la grande difficulté... Bon, je dirais même en Afrique aussi, c'était de coordonner un peu toutes les tâches, donner le travail à toutes les personnes et pouvoir respecter les délais. Mmh. Respecter les délais, c'était pas forcément facile. Et vu qu'on travaille aussi avec des Africains, on a tendance à être un peu parfois travailler à la dernière minute, au dernier moment. Et c'est pas toujours facile quand on organise un tel événement. Mmh. Et par exemple, pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi travailler à distance. C'est pas facile de coordonner à distance. Et là, on doit s'appuyer sur les autres parce que nous, on est à 5000 km et on ne peut pas aller se déplacer, faire des allers-retours, trouver les lieux, etc. Donc, on doit avoir des personnes sur place qui font le travail et qui le font très bien.
Alors, vous n'êtes pas ivoirienne, vous n'habitez pas la Côte d'Ivoire, vous allez organiser un événement là-bas. On doit avoir confiance en vous. comment avez-vous fait?
Alors, comment j'ai fait? Bon, la plupart des Ivoiriens que je connais, je les ai connus sur LinkedIn, justement.
Okay.
Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes très ouvertes et qui n'hésitent pas à aider. Qui n'hésitent pas à aider, à soutenir les bonnes œuvres, soutenir les bonnes causes. Donc, c'est en travaillant avec eux que j'ai réussi, en tout cas, à organiser ces événements-là. Et ils voient aussi l'amour que j'ai pour l'Afrique. Quand on dit l'Afrique, on parle de 54 pays, quand même. Donc, on parle aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, eux aussi voient les événements que je fais, ils voient l'amour que j'ai pour l'Afrique. J'ai aussi partagé beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ils se sont dit que c'était normal de venir aussi me soutenir.
C'est la dernière grande question de ce soir. Quels sont le futur projet? On va rester sur Répatriation et Business en Afrique. Est-ce qu'il y aura des petits changements? Qu'est-ce qui peut arriver?
Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, je pense que d'autres répatriations et business en Afrique. Déjà, ici à Kinshasa, commencer un nouveau job, donc okay. Dans la communication aussi toujours. Mmh. Et aussi continuer à former d'autres personnes sur LinkedIn. Ça, c'est un point que je n'avais pas mis en avant, mais j'ai aussi, à force d'être sur LinkedIn, je forme aussi d'autres personnes sur LinkedIn, sur cette LinkedIn. Plateforme, à commencer à poster, à commencer à avoir un peu de visibilité, à acquérir un peu de visibilité. Donc, continuer à former, à donner des formations sur LinkedIn. Continuer à organiser ces événements un peu partout en Afrique et en Europe aussi, cette année. Et commencer un nouveau travail ici à Kinshasa.
Et qu'est-ce qu'il faut pour être formé?
Qu'est-ce qu'il faut pour être formé? Qu'est-ce qu'il faut pour être formé? Déjà de l'argent. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut pour être formé et de la très bonne volonté?
De la très bonne volonté, il suffit de contacter...
Et... Voilà, il suffit de me contacter sur LinkedIn et voilà.
C'était un plaisir de vous recevoir, Robin Manuka. C'est la fin de l'émission, mais il faudrait juste résumer les points les plus importants, selon vous, par rapport à notre échange d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir de vous et de la communication?
Alors, je vais parler de deux volets. Donc, par rapport à l'Afrique, que vous soyez ici en Afrique ou que vous soyez en Europe, peu importe de là où vous nous suivez, aimez l'Afrique. Aimer l'Afrique avec ses imperfections, aimer l'Afrique avec ses défis, mais donnez-vous pour l'Afrique, parce que l'Afrique sera un meilleur continent si ses enfants décident de s'y investir. Et la deuxième chose, je dirais que pour tous les chargés de communication, notre travail n'est pas forcément facile, pas forcément compris de tous, mais il faut persévérer et beaucoup l'aimer.
Vous avez déjà... il y a côtoyé certains ici, chargés de communication.
Mmh. Oui, quand même pas mal. Je côtoie pas mal de chargés de communication pour apprendre aussi des réalités du Congo, mmh. pour comprendre aussi comment on communique ici mmh. et les stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, je travaille avec pas mal de chargés de communication, consultants en communication ici à Kinshasa.
Alors, est-ce qu'il y a quand même des similitudes? Il y a vraiment un long chemin pour y arriver? Y a-t-il un écart où ça marche sur la même lignée?
Bon, les défis sont différents. Par exemple, si je peux être concrète, en Europe, on n'utilise pas l'affichage pour communiquer. Ici, à Kinshasa, on utilise l'affichage. Mmh. On utilise beaucoup l'affichage, la radio, etc. En France, on va utiliser l'affichage, mais ce sera peut-être plus pour des grandes entreprises qui veulent communiquer sur un lancement de produit. Voilà. Mais ça va être différent.
Un dernier mot.
Bon, merci en tout cas. C'était vraiment un plaisir de partager cette émission avec vous. Et au plaisir de revenir peut-être une prochaine fois.
Vraiment, les portes seront toujours ouvertes. Robin Manoka, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est YouJob. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci. C'est également la dernière grande émission de l'année. On va revenir avec un grand talk show pour le mois prochain, où on recevra, comme d'habitude, plusieurs experts qui viendront partager en présentiel. Restez connectés à la 94.7 UFM.
De fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.